Oui, excusez-moi, c'était pour faire un essai pour voir si j'avais bien compris le numéro de téléphone. Allez, je vous remercie et je vous rappellerai par la suite. À plus tard.
Oui, bonjour. Les entreprises du travaux publics, ils s'engagent à engager combien ? 100 000 personnes en 10 ans. Mais ils sont un peu timorés quand même. Ils auraient mieux fait de dire 1 million de personnes en 100 ans. Comme ça, on aurait eu confiance en eux. Allez, au revoir.
Je trouve que c'est vraiment incroyable. Je rêve ou quoi ? Hier, Raffarin s'est insurgé contre la directive Bolkestein. Non mais c'est dingue. Serait-il en train de comploter avec Chirac ? Une raffarinade de plus. Sûrement parce que ces messieurs de la France d'en haut prennent vraiment la France d'en bas pour des cons. Moi qui suis simple citoyenne de la France d'en bas, cela fait déjà quelques mois que j'informe autour de moi des dangers de cette directive. Attaque, Raoul-Marc Génard, qui est docteur en sciences politiques, le PC, la CGT, les altermondialistes et bien d'autres, dénoncent cette directive sur la libéralisation des services depuis perpète. D'ailleurs, la manifestation prévue le 19 mars à Bruxelles sera contre cette directive Bolkestein et contre le démantèlement des services publics et aussi pour le non au référendum sur la Constitution européenne. Alors peut-être que soudain, messieurs Chirac et Raffarin sont devenus des militants altermondialistes. Non, je crois plutôt qu'ils essaient de brouiller les pistes à nouveau car ils sentent que la tension sociale est en train de monter. Ils ont peur d'un deuxième printemps 2003 qui cette fois-ci pourrait bien se prolonger au-delà du référendum. Enfin, en tout cas, je vous donne rendez-vous donc le 19 mars à Bruxelles. Salut.
Je vous appelle pour vous dire que les travailleurs et les travailleuses peuvent être rassurés, les 35 heures restent l'heure légale de travail hebdomadaire. Sachez cependant que vous pourrez faire des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires qui vous étaient payées 25% le seront 10% maintenant. Travaillez plus pour gagner moins. Les RTT sont bien amputés aussi. Aussi, dans toute la France, le samedi 4 février, sont organisées des manifestations. Soyez motivés pour venir manifester votre mécontentement contre le travail le lundi de Pentecôte pour conserver vos RTT. Au revoir.
Pour que toutes ces petites bougies ne s'éteignent pas trop vite, est-ce qu'il serait pas possible que là-bas, si j'y suis, fasse un CD pour qu'on puisse faire écouter à nos enfants tous ces magnifiques, tous ces magnifiques témoignages que les gens ont pu nous donner ces derniers temps. Encore merci, continuez, bravo pour tout, au revoir.
C'est Francis. Alors, j'appelle parce que t'arrêtes pas de faire des émissions sur la déportation, sur la dernière guerre, la Shoah, et ceci et cela. Alors, quand tu fais ça, bon, ok, c'est pas mal. Mais au bout d'un moment, ça fait chier. Mais ça fait pas chier moi. Ça fait chier ma mamie. Tu vois? Ma pauvre mamie qui a 85 ans. Eh bien, à chaque fois qu'elle entend des trucs comme ça, ça lui remue tout ce qu'elle a dans la mémoire. Et ça la torture encore plus que ce qu'elle a vécu. D'accord? Alors, quand tu penses à faire des émissions comme ça, tu penses aux papy et mamie qui ont été bien cool pendant la guerre, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Tu vois? Moi, mon grand-père, il faisait partie du maquis qui a fait péter le dépôt de carburant à Bergerac, à l'aérodrome, tu vois. Alors, quand tu fais des trucs comme ça, pense que tu fais pas que chier les jeunes, parce que les jeunes, bon, faut bien les faire chier un peu, ils ont pas eu leur dose encore, mais pense que tu fais chier les papis et les mamies. Voilà. Allez, salut, et arrête un peu tes conneries. Passe à autre chose, il y a pas mal de trucs intéressants dont tu pourrais parler.
Bon, on va passer à autre chose, mais je suis désolé, on continue encore aujourd'hui, que la mamie, eh ben, il y a 1200 radios, hein, en France, hein, quand même, alors elle peut peut-être écouter autre chose pendant l'heure qui vient, mais je comprends très bien ça, moi aussi j'ai une mamie, et elle me dit, oh là là, dis donc tes histoires en ce moment, moi, nous on a vécu ça, c'est pas marrant de les réécouter, mais ça je le crois tout à fait. Seulement, notre beau pays n'est pas peuplé que de mamies et de papis de 85 et quelques. Il y a aussi d'autres auditeurs qui connaissent pas ou peu ces histoires, malgré cette énorme foire à la mémoire qui est en train de fermer ses portes ces temps-ci. Il n'est pas du tout sûr que tout ait bien été, comment dire, compris, parce que... on a un peu un problème avec les leçons à tirer de tout ça. Les leçons à tirer, l'émotion, la compassion, l'indignation renouvelée, les larmes, les discours, les grands mots, très bien. Mais quelles leçons peut-on tirer ? Je vais en parler en m'appuyant sur un historien américain qui s'appelle Peter Novick et qui a qui a travaillé sur la place de l'Holocauste dans la vie des États-Unis d'Amérique et qui a analysé les leçons qu'on a tirées aux États-Unis de la Shoah. Mais aujourd'hui, c'est un témoignage que j'ai envie de vous faire entendre presque plus par fidélité envers un homme qui s'appelle Jacob Kapper. Il y a deux témoignages aujourd'hui, celui d'un homme qui s'appelle Roman Stein et un autre qui s'appelle Jacob Kapper. Pourquoi ? Parce que 1993, à Kiev, en Ukraine, ces hommes, comme ceux qu'on a entendus hier, nous ont confié à Zoé Varier, à moi-même, ces témoignages. Et c'était pas pour que ça reste comme ça sur une bande, sur une étagère d'un bureau de France Inter. C'était pour qu'on l'écoute et qu'on les réécoute. Je sais pas ce qu'ils sont devenus les uns ou les autres. Ils étaient déjà âgés. Et c'est un peu comme par fidélité, j'ai envie de vous faire entendre ça. On est, après tout, on est des porte-paroles, même si parfois il y a des paroles qui sont très lourdes à porter jusqu'à vous, jusqu'à vos oreilles. Voilà, c'est donc notre thème d'aujourd'hui. Désolé pour la mamie. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la bassiste. J'oublie quelque chose. J'oublie quelque chose de très important. On a reçu de la part d'un auditeur un témoignage qu'il a enregistré il y a quelques années, en 1991 exactement, témoignage d'une dame qui était passée par Auschwitz et par le centre de travail d'Auschwitz. Et cette dame est née, j'ose pas dire était, née en 1899. Donc elle est peut-être encore vivante, ce serait étonnant, mais en tous les cas, elle a des enfants et on aimerait avoir des nouvelles de ses enfants. Si jamais vous êtes les enfants de Rachela Zisman, Zysman, Zisman, eh bien, on aimerait beaucoup avoir de vos nouvelles pour vous faire réentendre peut-être ce témoignage de cette dame et voir si vous nous autorisez à utiliser son témoignage qui est formidable dans notre émission. Donc les enfants, petits-enfants, amis, proches de Rachela Zisman, Zysman, qui était née Zerkowski, elle était née Zerkowski, Zerkowski, née le 7 août 1899, son mari était ailleurs, j'ai quelques indications comme ça, voilà, elle a une vie dans la banlieue parisienne, et donc on a ce témoignage. Si vous reconnaissez, le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. D'autres messages auparavant.
Oui, bonjour Sylvie, je suis une ex-recalculée. Vous aviez fait preuve de solidarité l'an dernier en passant quotidiennement le compte à rebours des recalculés. Aujourd'hui, je laisse un message de soutien à François Tonnier. François Tonnier, c'est un RMiste condamné à de la prison ferme et à 1570 euros d'amende pour avoir pris le train sans payer. Il risque une nouvelle peine de prison ferme en appel le 3 février à Poitiers, c'est-à-dire demain. Procès à 14h. La loi de sécurité quotidienne ou LSQ a valu à des centaines de voyageurs sans billets des peines de prison ferme et des amendes exorbitantes. Nous, chômeurs précaires, travailleurs pauvres, sans papiers, demandeurs d'asile, nous déclarons que bouger est un droit et pas un délit. Nous sommes et nous resterons mobilisés jusqu'à ce que nous obtenions la relaxe de François Tonnier, l'arrêt de toute plainte contre les usagers socialement précaires, l'amnistie de toutes les amendes déjà prononcées, l'abrogation de cette loi indigne, la loi dite de sécurité quotidienne, la gratuité des transports. Je vous remercie.
Ici Michel à Gérardmer dans les Vosges. Aujourd'hui, c'est le 317e jour que Madame Benedetta Berdica, réfugiée albanaise avec ses deux enfants, est maintenue en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refusent de lui délivrer une carte de séjour, en dépit des instructions formulées le 22 mars 2004 par Monsieur Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Il apparaît nettement que Madame Berdica et ses enfants sont les victimes innocentes de luttes d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Voilà, c'est toujours le même message. Je sais qu'il y en a d'aussi graves, mais celui-là l'est également. Merci, au revoir.
Radio Notre-Dame. Je vous conseille Radio Notre-Dame. Il est 22h12, Radio Notre-Dame. C'est quelque chose.
C'est Florence de Strasbourg, membre du collectif Une école pour tous, qui lutte pour l'abrogation de la loi interdisant le port de signes religieux à l'école. Alors, c'est pour annoncer que le collectif Une école pour tous appelle à venir assister au cours public, laïque, gratuit, mais pas obligatoire, qui aura lieu le samedi 5 février à 15h, place Kléber, à Strasbourg. Ce cours est ouvert à tous, à celles qui portent un voile et à celles qui n'en portent pas, à ceux qui croient au ciel et à ceux qui n'y croient pas. Nous y parlerons de l'Antigone de Sophocle, et ceux qui le veulent pourront éventuellement ouvrir un débat donc sur l'actualité de cette tragédie. Alors, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre tenue vestimentaire, venez nombreux donc le samedi 5 février à 15h place Kléber pour assister au cours sur Antigone organisé par le collectif Une école pour tous, donc à Strasbourg. Au revoir.
2072 années avant ce jour où deux avions à New York se sont écrasés, détruisant deux tours en béton, le monde était en ce temps-là entièrement tout à fait plat. Un empire régnait sur l'homme, son nom, vous le savez, c'est...
Rome. La suite, c'est à la Belle Étoile, à Saint-Denis, à deux pas de la Porte de la Chapelle.
Et c'est le spectacle de la compagnie Jolimôme.
Je reviendrai et je serai des millions, Spartacus. Et c'est à partir du jeudi 3 février.
Pour réserver, appelez-nous au 01 49 98 39 20.
01 49 98 39 20.
Ou venez sur le site de la compagnie Jolimôme, il vous guidera jusqu'au théâtre de la Belle Étoile.
14 Allée Saint-Just à la Plaine Saint-Denis. À bientôt!
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, Romane, Jacob et Babillard.
Flight number two. Arriving.
Jacob, est-ce que vous êtes fier de ça?
Конечно, да, сейчас.
Bien sûr que maintenant j'en suis fier.
Je suis
fier d'avoir réussi à raconter tout ça.
Чтобы наши дети и внуки этого не знали уже.
Чтобы наши enfants и nos petits-enfants ne vivent plus ça.
Уже больше никогда, чтобы был мир, чтобы
maintenant il y ait la paix, que ça n'existe plus jamais.
C'était à Kiev, en Ukraine, en 1993, et je me souviens exactement du visage de Jacob et de son épouse, tout comme de Romanstein, qu'on va retrouver dans un instant. C'est des personnes, des hommes, des femmes, dont les visages nous ont frappés, sont gravés dans nos esprits, dans nos mémoires, et les paroles sont gravées sur nos bandes magnétiques et qu'on va entendre aujourd'hui. La raison, je disais, oui, c'est cette fidélité, mais c'est aussi peut-être pour en finir avec le devoir de mémoire. Ouais, le devoir de mémoire est invoqué comme un moyen de réduire, de faire fondre une culpabilité collective, un fardeau moral, un héritage maudit qui serait le nôtre et que nous aurions à partager. La culpabilité est-elle soluble dans le devoir de mémoire? La culpabilité est-elle évitable? Peut-on décider que l'on n'est plus coupable, que c'est terminé? Je n'en sais rien après tout, je n'en sais rien, mais je sais que la culpabilité est un sentiment encombrant, pour pas dire tout simplement religieux, et inutile. Par contre, la responsabilité, voilà quelque chose de beaucoup moins flou, la responsabilité, notre responsabilité, leur responsabilité, le self-denken dont parlait il y a quelques jours à ce micro l'historienne israélienne Idit Zertal, rapprochant ces deux mots, solidaire et solidaire, cette capacité d'être solitaire dans la solidarité qui n'est pas toujours voulue, qui est imposé, il y a une solidarité humaine, il y a une communauté humaine, il y a des mouvements humains, des panurgismes humains auxquels on se trouve, dans lesquels on se trouve plongé. Il n'est pas facile toujours de penser par soi-même en rupture, au simple risque de déplaire. Et la responsabilité nous autorise à interroger la responsabilité des responsables contemporains de l'anéantissement nazi, c'est-à-dire à répondre à cette question obsédante pendant et puis après, depuis 60 ans, mais qui se posait aussi pendant, à savoir que savait-on, que savez-vous, que savait-on de la Shoah ? L'histoire, le travail, lent des mémoires, de l'histoire, qu'elle soit scientifique ou émotionnelle, a montré que l'on savait énormément de choses et que les responsables savaient beaucoup de choses. Le 24 août 1941, Winston Churchill dénonce l'extermination des Juifs à la mitrailleuse dans des fosses communes. Le 25 juin 1942, le Daily Telegraph publie une série d'articles où l'on indique que 700 000 juifs ont été exterminés par les Allemands dans le plus grand massacre de tous les temps, 25 juin 42. Le papier est repris dans le New York Times, ce qui donne des manifestations devant le journal à New York. Et ce sont des infos qui proviennent d'une dépêche reçue par Ziegel Ziegelbaum, et qui est un membre du Conseil polonais à Londres. Et devant l'indifférence de cette information qu'il transmet, cet homme, Ziegelbaum, se suicide le 12 mai 1943. Donc les informations circulaient. Donc on savait, peut-être pas les petits gens, peut-être pas les gens de peu, dans cette France occupée, bien sûr, sans doute pas, mais... On savait, on pouvait savoir, mais on ne voulait pas savoir. On ne pouvait pas imaginer ça, nous dit-on. Nous a-t-on dit par la suite. Pourquoi les voies ferrées n'ont pas été bombardées par les Alliés ? Cette question aussi se pose de façon obsessionnelle sans qu'on n'ait jamais eu de réponse vraiment claire. Roosevelt craignait son opinion publique. Comment accueillir quantité d'immigrants juifs aux États-Unis ? C'était une question. Et puis, les sionistes en Palestine étaient dans la même expectative. Il faut pas l'oublier, c'est des choses qu'il faut dire, qu'on peut dire aujourd'hui. Ben Gourion, leader sioniste, s'était accommodé des mesures antisémites des années 30 qui lui avaient permis d'accueillir des flots d'immigrants. Le pape Pie XII a très timidement dénoncé le génocide à la Noël 1942. Et en juillet 44, lorsque des évadés racontent, les responsables juifs font pression sur les gouvernements à ce moment-là. Et c'est le refus, Churchill, Roosevelt refuse de bombarder à Auschwitz. Donc, on voit qu'il y avait des responsabilités, on voit qu'on savait, on voit qu'on n'a pas agi. Et je parlais de Peter Novick qui, dans ce livre formidable que je vous conseille vraiment, mais alors là, très chaudement, « Holocauste dans la vie américaine » aux éditions Gallimard, c'est sorti il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, raconte comment, et c'est ce que me disait Edith Dertal l'autre jour, comment on a comment les États-Unis ont regardé la Shoah au fur et à mesure des nécessités du présent. J'emploie un euphémisme, c'est-à-dire au fur et à mesure des nécessités politiques des États-Unis et les différents États concernés, impliqués, Israël, la France, l'Allemagne bien sûr aussi, a regardé et on a construit une vision, une image de l'anéantissement nazi au fur et à mesure des intérêts que les États pouvaient y trouver. Voilà la responsabilité. Nous pouvons agir sur ces responsabilités. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Parce qu'on peut faire un rapprochement avec des choses que nous avons vécues ici même, nous. C'est-à-dire le génocide du Rwanda où pendant 100 jours, 10 000 personnes ont été exécutées, ont été exterminées chaque jour au Rwanda. En direct, nous le savions, même s'il n'y avait pas suffisamment de médias peut-être, mais on le savait, on en savait assez pour agir. Et les Nations Unies, les pays impliqués qui connaissent ce pays, la Belgique, la France, les États-Unis, les pays africains, personne n'est intervenu pendant ces 100 jours. Et c'était un génocide, et nous le savions, et nous pouvions agir. Bloquer, interrompre ce génocide était une chose très très facile. Je ne sais pas s'il était facile ou non de bombarder les voies ferrées qui allaient vers Auschwitz. Mais je sais en tous les cas pour le Rwanda. Voilà la responsabilité, voilà le message que j'entends et dans ce que va dire, dans ce que vient de dire Jacob Kapper, dans ce qu'il nous disait en 1992, et dans ce qu'il va nous dire, lui, et auparavant, Roman Stein. C'est jusqu'à 18h, c'est la Bastille des Suites. Was mich es dein Kind? Was willst du mir begraben? Weh zu meine Sinn. Ach, weh willst du wissen, wie es ist, wenn mir nicht geht? Willst du nicht gezogen, wie was mein Blick? Kein Freude, was mir l'anéantissement se réalisa en deux grands ensembles d'opérations. Le premier commença dès l'invasion de l'Union soviétique le 22 juin 1941. De petites unités de SS et de la police avancèrent en territoire occupé avec mission de tuer sur place toute la population juive. Il ne s'écoula que peu de temps entre la mise en route de ces massacres itinérants et le lancement de la deuxième grande opération qui aboutit à transporter les juifs d'Europe centrale, occidentale et sud-orientale dans les camps munis d'installations de gazage. On est sans mots en lisant ce genre de lignes, ce genre de rappels, ce genre d'études, d'analyses aujourd'hui sur la Shoah. Le premier monsieur que nous avons rencontré s'appelle Roman Stein. Il habite une petite maison, ce qui est assez rare parce qu'il y a à Kiev surtout des gros sortes de HLM mastoc comme ça. Et il est assez fier d'avoir sa propre maison. Il nous reçoit chez lui. Il y a la télé qui tourne. Il y a sa femme qui est très jolie, très très bien apprêtée comme ça, comme les dames un peu dans ces coins-là. Et lui, c'est un petit bonhomme, pas très grand, mais très fin et assez balèze comme ça, assez sportif. Vous comprendrez pourquoi, Monsieur Roman Stein.
А накануне это 25-го числа уже были вывешены объявления о том, что всем евреям города Киева взять теплые вещи, закрыть свои квартиры.
Le 25 septembre 1941. On a commencé à coller, les Allemands ont commencé à coller des affiches, des annonces dans la ville qui demandaient à la population juive de rassembler ses affaires et de fermer ses appartements, de prendre leurs papiers d'identité et de rassembler toutes leurs affaires de valeur et qu'il fallait que tout le monde se rassemble le 29 septembre dans une rue de Kiev, dans la direction du cimetière. Tout le monde pensait qu'on allait être évacué.
Был слух, что всех должны посадить на поезда и отправить в Палестину.
Il y a eu un bruit qui a couru au sein de la communauté juive, comme quoi on allait mettre les juifs dans des trains et les envoyer en Palestine.
Не смог я уговорить маму, чтобы она не пошла.
Je n'ai pas réussi à convaincre ma mère qu'elle n'y aille pas.
Собрались мы все наши небольшие вещи, которые были, закрыли квартиру.
Alors on a rassemblé toutes nos affaires, le peu d'affaires qu'on avait, on a fermé notre appartement.
И я и сестра 6 лет с мамой вместе.
Et alors moi avec ma sœur qui avait 6 ans et avec ma mère.
Все, что я мог донести, вот это мы взяли с собой.
Nous sommes rendus là-bas, et tout ce que je pouvais porter, je l'ai porté, je l'ai emmené avec moi.
Мы вышли из дому, было 11 часов, но уже с 7 часов утра люди все шли.
Nous, on est sortis de la maison, il était 11 heures du matin, mais depuis 7 heures le matin, les gens n'arrêtaient pas de passer dans cette rue pour se rendre au rendez-vous.
Прошли мы километра полтора.
On a marché pendant un kilomètre et demi.
Затем весь этот поток остановился.
Et au bout de ce kilomètre et demi, on arrêtait la foule.
Дальше нас ожидало самое уже страшное.
C'est ensuite que nous attendaient les choses les plus terribles.
Вещи забирали.
On nous prenait nos affaires.
Из этих вещей была громаднейшая гора.
Toutes nos affaires étaient rassemblées et ça faisait comme une grande montagne, toutes ces affaires ensemble. Et c'était terrible de regarder ça. Et puis on a pris nos papiers d'identité.
Забирали документы и тут же на костре сжигали.
Et tout de suite, on les brûlait, on les jetait dans le feu.
Снимали ценные вещи с рук, шеи,
on
у кого были.
On faisait enlever tous nos objets de valeur, nos bagues, nos montres.
Снимали одежду.
Il fallait se déshabiller.
И когда вот это я уже увидел, я маме сказал, что теперь нас, наверное, убьют.
Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que ça allait se passer comme ça, là j'ai dit à ma mère, on va nous tuer.
Машины закрыты. Туда садили женщин с детьми.
Et puis, il y a des voitures qui ont commencé à s'approcher de nous, des voitures complètement fermées, et on a fait monter dedans les femmes et les enfants.
Вот в этом месте меня и отделили от матери.
C'est à ce moment-là qu'on m'a séparée de ma mère.
Мать с сестрой посадили в эту машину, и еще многих женщин с детьми.
On a fait monter ma mère et ma sœur dans une de ces voitures, avec plein d'autres femmes et d'enfants.
А меня, подростка, и мужчин, и таких стариков, которые еще могли сами идти, строили в колонны.
Et nous, les hommes,
и повели
les
по шоссе.
Les garçons, et puis les vieillards qui pouvaient encore marcher seuls, on nous a fait mettre en rang, et on nous a fait marcher sur le trottoir.
Ужасы. Женщины волосы на себе рвали.
Là, vous racontez ce qui se passait exactement à ce moment-là, c'est terrible. C'était des larmes, c'était des femmes qui s'arrachaient les cheveux.
Плакали дети.
Les enfants.
Матеря просили, чтобы хоть детей спасти, чтобы детей не трогали.
Les mères qui suppliaient qu'on sauve leurs enfants, qu'on laisse leurs enfants, qu'on ne les emmène pas.
Но ничего этому не помогло.
Mais ça, ces plaintes, ces pleurs, ça n'aidait à rien.
Машины с женщинами и с детьми отвозили прямо к Бабьему Яру.
On a emmené les femmes et les enfants en voiture directement à Babi Yar. Regardez, ça c'est sa mère.
Ah voilà, la photo de la maman. Et le papa?
Отец.
Отец. Это отец, это мама.
C'est mon père et ma mère.
Это в возрасте ей 20.
Là,
25 лет,
là, ma mère a 25
26.
Ans, et mon père a 26 ans.
Единственная мысль, которая у меня была, это каким образом можно спастись.
La seule chose à laquelle je pensais, c'était de me dire comment je peux me sauver.
Вооруженные охранниками, чтобы никто не убежал.
On avançait dans la rue en rang. Et on était entouré par des hommes qui étaient armés pour que personne ne s'enfuit.
Где находились канавы?
À gauche et à droite de nous, dans la rue, il y avait des caniveaux.
Под дорогой какие трубы лежали?
Sous nous, sous la terre, il y avait des tuyaux.
И вот я выскочил из строя и спустился в эту трубу.
Je suis parti des rangs et je me suis caché, je me suis jeté dans ces tuyaux.
Просидел я в этой трубе более трех часов.
Je suis resté dans ce tuyau pendant 3 heures.
Выйти оттуда не было возможности, потому что каждые несколько минут шла колонна за колонной.
C'était pas possible de sortir de là parce que pratiquement toutes les minutes, il y avait des groupes d'hommes comme ça qui passaient au-dessus.
И только к концу дня, когда стало реже уже проходить колонны.
Et c'est seulement le soir, quand ces groupes d'hommes passaient de moins en moins souvent.
Я оттуда выскочил.
Je suis sorti
и через огороды прибежал в город.
Et j'ai couru vers la ville.
А люди еще продолжали идти. И я сказал, что расстреливают. Людям сказал, что не верьте, что там расстреливают.
Je suis retourné à la ville et là les personnes continuaient à se rendre à ce rendez-vous. Et je suis allée leur dire qu'on tuait, qu'on fusillait, qu'il ne fallait pas y aller.
Но никто не поверил.
Mais personne ne
croyait. Все равно все шли.
Personne ne m'a cru et ils continuaient à avancer vers ce rendez-vous.
Когда начало темнеть,
quand il a commencé à faire nuit,
у меня от дома был ключ.
J'avais les clés de la
я
maison.
Открыл дверь.
J'ai ouvert la porte
et
de la
maison. Зашел домой.
Et je suis rentré à la maison.
И дома я прожил 6 суток.
Et je suis resté pendant 6 jours à l'intérieur de l'appartement sans sortir.
И в один прекрасный день я слышал, что кто-то собирается открыть двери. Пустился вниз и удрал. Больше домой я не приходил.
Et puis un jour, j'ai entendu, je me suis rendu compte que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte de la maison. Alors je suis allé sur le balcon et du deuxième étage, grâce aux tuyaux qui sont sur les immeubles, je suis descendu et je me suis enfui. Et je ne suis plus jamais revenu chez moi.
Pendant que vous étiez dans la maison, pendant ces 6 jours, vous étiez dans la maison, vous pensiez à votre mère, vous pensiez à votre famille, vous aviez compris ce qui leur arrivait.
Что семья погибла, я уже был уверен.
Mais j'étais déjà sûr que ma famille était morte. J'étais déjà sûr que j'en étais sûr.
Кто такой яр, вы знаете?
Vous savez ce que c'est un ravin, une fosse, vous savez?
А их спускали вниз и там внизу обстреливали.
On les faisait descendre en bas au fond внутри. Et là on les fusillait.
Témoignage d'un des rescapés du massacre de Babi Yar, 29 et 30 septembre 1941, Monsieur Roman Stein qui vient de nous parler. Par la suite, il va survivre grâce au directeur de son école qui lui trouvera des papiers avec un autre nom. Il pourra fuir, il va s'engager dans l'armée, il va faire 400 kilomètres à pied jusqu'à Moscou. Il nous a raconté cette longue histoire. Et puis là, il va s'engager, il est dans l'artillerie, il va libérer l'Estonie, la Lituanie. Et puis, la paix revenue, il deviendra prof de gym dans sa ville de Kiev. Un autre qu'on va rencontrer maintenant, retrouver maintenant, Jakob Kapper, qui lui a fait partie des Sonderkommando. Il n'emploie pas ce terme dans son témoignage, mais c'est exactement ça, le Sonderkommando, on sait ce que c'est le dernier cercle vraiment de l'enfer pour les détenus, ceux qui étaient chargés d'enfourner les corps dans les fours et de les retirer des fours et ce qui leur permettait de vivre quelques jours de plus avant d'être exécutés eux-mêmes. C'est le témoignage de Jakob Kapper, donc l'un des survivants lui aussi du massacre de Babi Yar, l'un des massacres qui eurent lieu tout au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes sur le front de l'Est. Où les Einsatzgruppen, c'est-à-dire les unités mobiles de tuerie, appuyées par des régiments de police, massacraient à la mitrailleuse des habitants. La plupart étaient des juifs. J'ai donné des chiffres hier. Au total, on évalue à environ 1 million les nombres de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été anéantis de cette façon. Jakob Kapper.
Shalom, teure Jiden von Franzi. Ich schicke euch ein Gruß von Kiew. Ich wünsche euch gesund und Glück. Soll sein Schule auf der ganzen Welt. Ihr bin Aedes übergelebt die Tragödie von Babi Yar. Mir seinen feindlichen Tug geblieben drei Menschen. Ich, Jakob Kapir, David Budnik, Zachar Trubakov. Seid gesund.
Un message en yiddish de Jacob Abramovitch Kapper qu'il a rédigé avec son épouse après qu'il ait appris de notre bouche à Zoé et moi qu'il y avait effectivement, puisqu'il nous avait posé la question de savoir s'il y avait des juifs en France, quand on lui a dit que oui, et bien il a tenu à adresser ce message en yiddish. Jacob Abramovitch Kapper a 82 ans maintenant. Et lui, il n'a pas fait partie des gens qui ont été convoqués ce 29 septembre 1941. Lui, c'est après qu'il s'est trouvé dans ce vallon, ce ravin de Babi Yar.
J'avais 29 ans. D'abord, moi, j'ai été en camp comme prisonnier de guerre.
Вели на расстрел евреев в Киеве, так я находился в лагере.
Quand on a tué les Juifs à Kiev, moi, j'étais en camp.
А после того, как узнали, что я еврей, меня перевели, было устроено такой лагерь, вроде гетто.
Ensuite, quand ils ont compris que moi, j'étais juif, ils m'ont mis dans un ghetto. Il y a eu comme un ghetto ici à Kiev.
Nous, потом они устроили здесь называется концлагерь.
Et ensuite, il y a eu ici à Kiev un camp de concentration.
Там были русские, украинцы, немцы, кто попалось туда.
Non, il y avait des Russes, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Allemands. Toutes les nationalités étaient là. Il y avait des voleurs, il y avait des partisans, des communistes. Il y avait vraiment de tout, aussi bien des droits communs que des politiques. Il y avait une partie du camp qui était pour les juifs. Je suis restée là jusqu'en 1943.
А в 43-м году они этот советский концлагерь отправили в Германию.
En 1943, ils ont décidé d'évacuer le camp de concentration dans lequel je me trouvais. Ils ont fait partir la plupart des hommes en Allemagne, mais les juifs sont restés là et on les a envoyés pour nettoyer Babi Yar.
Il n'y avait que des juifs pour nettoyer Babi Yar.
Там была команда 327 человек.
On était 327 pour le nettoyage de la fosse.
Там в основном были русские украинцы, осуждённые на смерть, и нас присоединили к этой.
La plupart d'entre eux étaient des Russes et des Ukrainiens qui étaient condamnés à mort, et nous, on nous a mis avec eux.
Когда нас привели в Бабий Яр, и я увидел эту картину, я начал кричать: «Больше я не хочу жить! Расстреляйте меня!»
Quand je suis arrivée à Babi Yar et quand j'ai vu ce que c'était que Babi Yar, j'ai crié et j'ai dit: fusillez-moi, je ne veux plus vivre. Et au moment où j'ai crié ça, il y a un Allemand, un des chefs des Allemands qui était là, qui m'a foncé dessus et qui m'a donné un grand coup dans la mâchoire et il m'a décroché la mâchoire.
Так окровавлены и дали мне лопаты, и я пошел и начал самое копать яр.
Alors j'avais la bouche en sang, ils m'ont donné une pelle et j'ai commencé à creuser.
И вытаскивать эти трупы.
Et à sortir ces cadavres.
И сжигали их.
Et à les brûler.
Les autres hommes.
Инструменты выдали. И все взялись за это дело. Потому что...
Tout le monde a fait la même chose, tout le monde a pris sa pelle et tout le monde a creusé.
Заставляли это делать.
Parce qu'on nous forçait à faire ça, on était obligés de le faire.
Est-ce que vous parliez entre vous?
Не было это самое такие, что можно было с кем-то говорить. Мы стояли все время, работали и не могли ни с кем поделиться.
Non, vous savez, dans la fosse, on ne parlait pas. On était chacun de notre côté à travailler, mais on ne parlait pas.
На каждые пять человек был немец с автоматом, с собакой.
Tous les cinq hommes, il y avait un Allemand avec un fusil et un chien.
Этого немца стояла бутылка водки, потому что там запах от горелого мяса невозможно было там выдерживать. И он каждый раз гуль-гуль немножко.
Et l'Allemand, il avait une bouteille de vodka devant lui parce que l'odeur de cette viande qui brûlait était insupportable et sans arrêt, il prenait des goulets comme ça de vodka.
Et 327 hommes ont tenu. Il n'y a pas eu de rébellion.
О чем вы говорите? Как это можно было там вообще говорить?
Comment vous pouvez dire une chose pareille? Comment vous pouvez même penser que ce soit possible une chose pareille?
Над нами так издевались, что мы не могли что-то сказать слово.
Ils étaient tellement sur nous, ils étaient tellement en train de nous épier sans arrêt qu'on ne pouvait même pas dire un mot, on ne pouvait rien faire.
Vous arrêtiez quand même pour dormir ou pour manger ou pour vous reposer?
Ночью перестали все-таки немножко работать ночью и тоже ночью.
Нет, каждый лег, плакал и все это самое, и ни с кем не боялся слова кому-то сказать.
La nuit, oui, on arrêtait de travailler, on allait s'allonger. Et chacun s'allongeait, pleurait dans son coin, personne ne se parlait.
Я лично, еще там другие, я вытаскивал эти трупы.
Moi, mon travail à moi, c'était de sortir les cadavres, de défaire les cadavres les uns des autres.
И потом таскал эти самые трупы, таскали недалеко, там устроили печи.
Et je devais les traîner comme ça jusqu'au four qu'on avait fait.
Некоторые снимали одежду.
Il y avait des brigades, si vous voulez. Certains enlevaient les habits des cadavres.
Некоторые вырывали золотые зубы.
D'autres arrachaient les dents en or sur les cadavres.
Некоторые копали я. Некоторые вытаскивали трупы. Это было разделение.
Certains creusaient, d'autres tiraient les cadavres.
Вот так мы работали до 29 сентября 43 года.
Et c'est comme ça que nous avons travaillé jusqu'au 29 septembre 1943.
Il y avait combien de fours?
60 печек мы построили.
Nous avons construit 60 fours.
C'est vous qui avez construit les fours?
Да, мы строили эти печи.
C'est nous qui avons construit ces fours.
Мы снимали памятники с еврейской кладбища. На эти камни, вот эти вот решетки. А на решетки положили дрова. А потом трупы выкладывали несколько рядов, а потом обливали их керосином, бензином, и потом опять, значит, ложили дрова, и опять, значит, трупы.
C'est nous-mêmes qui avons construit les fours. On a été prendre des bouts de monuments dans le cimetière juif, les plaques. Nous les avons posées par terre. Nous avons mis du métal dessus. Ensuite, nous mettions une grille. Ensuite, on mettait du bois. Ensuite, on mettait une rangée de cadavres. Ensuite, on mettait du bois. Et ensuite, on mettait encore une rangée de cadavres. Et on versait du kérosène sur les cadavres pour qu'ils brûlent plus vite. Ensuite, on allumait le feu.
Остались только кости.
Les corps brûlaient à peu près entièrement en 24 heures. Il ne restait que les os.
в другом месте строили опять, значит, печку, а эти кости разбивали на мелкие кусочки.
À côté, il y avait un deuxième four qu'on avait construit où on prenait les os, on les coupait en petits morceaux, on les brisait en petits morceaux.
Пепел, вот это самое, смешали с песком и заравнивали дорогу.
Ensuite, on jetait les os sur une grille pour qu'ils brûlent. Les os brûlaient. On mélangeait la cendre avec du sable et après on jetait ça sur les routes.
Comment vous avez fait pour ne pas devenir fous les uns et les autres?
Много людей с ума сходили.
Il y en a beaucoup qui sont devenus fous.
Mais pendant le travail?
Да.
Oui, pendant le travail.
Мало что мы вытаскивали трупы, которые были закопаны там, так привозили душегубка, приезжала, разгружали эти самых мертвых.
On ne brûlait pas seulement les corps, les cadavres de babillards. Des fois, il y avait des arrivages de cadavres frais. Et on devait aussi les brûler, ceux-là. Voilà, c'était ça notre travail.
Mais quand on a presque закончили la работу, ils nous ont dit, vous кончаете тут работу, мы переезжаем в Житомир, Львов. Они нас обманывали. Потом они нас заставили сделать последние печки для себя.
Ils nous avaient dit qu'une fois qu'on aurait terminé notre travail, on irait à Jytomyr, on irait à Lvov, on irait avec eux. Mais ce n'était pas vrai, ils nous ont menti, parce qu'ils nous ont demandé de construire un dernier four. C'était un four qui était pour nous.
Et мы сделали последние печки для себя, но они не успели нас расстрелять, потому что они ждали какая-то... сверху начальство большие должны были присутствовать и решили, что они на завтра это сделают утром.
On a donc construit un dernier four qui était pour nous, pour brûler nos propres corps. Et le jour où ils devaient nous fusiller, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils attendaient des supérieurs de la commandante Tour qui ne sont pas arrivés. Donc ils ont décidé de reporter notre exécution au lendemain.
Потом уже узнали о том, что утром должны нас расстрелять.
Le matin, on a appris qu'on allait être fusillé.
Как я. Все бежали.
Nous nous sommes tous enfuis.
А сейчас осталось только трое.
Et aujourd'hui, il n'en reste plus que trois qui sont vivants.
Еще один есть тут будник, один Трубаков, находится в Израиле.
Il reste будник,
да,
et Трубаков qui vit en, да, Israël aujourd'hui.
Да. И я.
И мой.
Твою полі до край дороги, там лежав камінь до мармуровий. Я на тієї же до мармурині, там сидів парень чорнобровий.
Voilà, merci à Jakob Kapper et aussi à Roman Stein, ces deux hommes qui nous avaient confié leur témoignage en 1993, donc à Kiev. Des informations, des livres sur ce sujet, sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Je vous conseille notamment un livre de Dominique Vidal aux éditions Complexes, paru il y a quelque temps déjà, mais formidable, intitulé Les historiens allemands relisent la Shoah, les jeunes historiens allemands riches de nouvelles archives revoient, c'est pas révisé, mais apporte des éclairages nouveaux, des analyses nouvelles, toujours nouvelles sur cette catastrophe. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. Réalisation, Antoine Chao. L'équipe de la basse, j'y suis, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Le Pascariello et c'est Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et le mail de la basse, j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Je m'adresse à l'auditeur du début sur le répondeur, je crois qu'il s'appelait Francis. Il peut dire à sa mamie maintenant de revenir et de nous retrouver demain à 17h pour la page qui suit. Ce sera tout à fait différent. Donc à demain, 17h. Je vous laisse dans quelques instants, au bout de 17 secondes de pub, ça va, c'est quand même pas trop long, avec Frédéric Bonneau pour Charivari. À demain. Salut.